Bonjour et bienvenue sur CFM Sport 46. Aujourd'hui, on reçoit les guerrières cadurciennes avec Florine, Anouk, Sinaï et il manque Mathilde. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée.
Donc c'est Florine qui est au centre de...
Exactement.
De la création des guerrières.
Oui.
Et alors toi Florine?
Oui.
Cadurcienne?
Non.
Non plus.
En réalité, il n'y a aucune cadurcienne dans l'équipe.
Ouais.
Moi, je suis de Clermont-Ferrand, du coup, aussi à la base. Je suis venue dans le sud-ouest il y a 5 ans. J'ai vécu sur Toulouse là pendant 4 ans. Et là, ça fait seulement un an que je suis à Cahors, où je me suis rapprochée du paraclub. Comme j'ai passé une formation où du coup, je suis monitrice depuis un an. Donc pour des raisons pratiques, je me suis rapprochée du club.
Tu as bien fait, voilà. Ça veut dire que le club est récent. Parce qu'il y a le. Pour nous expliquer, il y a quoi? Il y a le club de parachutistes. Il y a une association en parallèle, les guerrières. Comment c'est constitué?
Oui, alors en fait, le club de Cahors, donc le club de parachutisme, c'est un club qui lui existe depuis très longtemps. C'est un centre école de parachutisme où on peut faire de la formation, des baptêmes, etc. Et après, nous, c'est juste qu'on était licenciés dans ce club-là et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est notre club, donc c'est là où on s'entraîne, là où on saute, dans différentes disciplines, pas forcément que celles qu'on pratique en compétition. Et à côté de ça, quand on a monté l'équipe, nous, on a fait le choix de monter une association, les guerrières.
Et Nassau, ok.
Ouais, on a monté une association parce qu'on voulait que notre équipe soit une équipe compétitrice, mais on avait aussi cette envie de contribuer à développer un petit peu ce sport dans le milieu féminin, parce que c'est un sport qui est encore très masculin. Donc, donc on s'est dit, bon, c'est quand même assez rare une équipe entièrement féminine. Donc on s'est dit, on a aussi envie de jouer un peu là-dessus. Et si notre équipe, à travers notre pratique en compétition, peut favoriser à développer un peu notre sport auprès des femmes, et autant.
Vous êtes les porte-étendards de la féminité dans le vol relatif et pas que. Il manque deux équipières.
Oui, exactement.
Donc avec vous, il y a Mathilde Reis, c'est ça?
Oui, Mathilde Reis, qui est une performeuse aussi, qui elle est marseillaise.
Voilà. On voyage, on fait le tour.
On est toujours dans le sud quand même. Ouais.
Voilà, et qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour des raisons professionnelles.
On la salue. Les âges, du coup, ça va, c'est quoi le delta?
Eh bien, je vais avoir 20 ans cette année.
Ok.
Pour ma part.
Moi, 19.
Ok.
Moi, 29. Et Mathilde va avoir, si on ne se trompe pas, 38.
Oui, c'est ça, je crois.
En gros, il y a 19 ans d'écart.
Doyenne,
exactement.
Oui, exactement.
Faites pas attention, là. Attention. Si elle nous écoute, attention.
Coucou Mathilde.
Donc, toi, Florine, tu fais ton BPJEP, tu fais un questionnaire, tu constitues une équipe.
C'est ça.
Et là, vous vous dites, on fait un peu, c'est quoi au départ, de la gym, il y a un peu de tout comme élément dans cette équipe de sportive.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et exactement, en fait, quand j'ai eu les réponses au questionnaire, où en fait je m'interrogeais sur les raisons pour lesquelles il y avait de moins en moins de gens qui pratiquaient ce sport en compétition. Et du coup, en fait, c'est vrai que les raisons qui sont ressorties, pour moi, c'était pas, enfin, je voyais pas ça comme une problématique, parce qu'en fait, mes trois coéquipières aujourd'hui ont répondu qu'elles avaient envie de faire de la compétition et qu'elles n'en pratiquaient pas, tout simplement parce qu'elles avaient du mal à trouver d'autres coéquipières. Enfin,
donc voilà. D'autres personnes qui veulent avoir un
c'est
peu
ça.
De fun et.
Voilà. Donc pour moi, ça c'était pas une limite parce que je les avais toutes sous la main. Donc,
ouais.
Donc je me suis dit, effectivement, il y a certainement quelque chose à faire. Voilà.
Il y avait de la motivation. C'est aussi une pratique un peu innovante parce que. Pas grand monde la connaît, il n'y a pas non plus de représentation télévisuelle ou dans les médias, on entend peu parler.
Non, du tout.
Très peu. Ouais. On en entend souvent quand c'est malheureux, mais quand il se passe des choses, quand il va avoir celui qui a sauté de la tour Eiffel, certaines choses, quand c'est lui qui s'est coincé au stade, par exemple.
Qu'on salue aussi au stade toulousain.
C'est ça. mais, euh, Mais c'est vrai qu'on en entend peu parler. On entend un petit peu parfois le VR4 de France, l'équipe de France.
Ah ok. Ouais.
Quand ils ont des résultats.
Cette année.
Voilà.
Ça, on va en parler après parce que vous allez un petit peu tatiller aussi parce que il y a deux niveaux, c'est ça?
Oui, exactement.
National 2, National 1, et il y a une équipe de France qui a National 1.
Exactement.
Pardon. Là-dessus, vous vous constituez, vous partez en championnat. Comment c'est fait? Il y a des étapes tous les mois, tous les trimestres. Il y a un championnat national une fois par an et vous dites on y va. Et au bout d'un an, bingo, vous êtes championne de France. Comment ça s'est fait?
Et ben en fait, on a commencé à s'entraîner en soufflerie donc en janvier 2024. Et après, c'est nous qui nous sommes un petit peu organisés en fonction de nos disponibilités, de ce qu'on pouvait faire. En termes de disponibilité financièrement, parce que ça reste des frais importants. Donc nous, on a essayé de s'entraîner à peu près un week-end par mois. Et en fait, notre lieu d'entraînement, en fait, on s'entraîne en soufflerie et on s'entraîne en Espagne, en Puria Brava. Donc,
sympa, il y a pire.
Il y a pire, mais effectivement, il y a plus pratique quand même. Parce que c'est loin, donc on fait l'aller-retour sur un week-end. Ça reste quand même en termes d'organisation assez complexe. Mais donc on s'est retrouvés en janvier 2024 pour un premier week-end d'entraînement. Donc les filles se connaissaient juste de
vue. À la compétition justement.
Donc c'était assez marrant et les liens se sont créés très rapidement.
Je vois au sourire d'Anouk qu'effectivement, en Puria Brava, c'est un lieu idéal.
C'était absolument parfait.
Donc voilà, et après, pour ce qui est des championnats, il y a un championnat de France par an, et c'est tout. Donc après, il y a quelques compétitions régionales, mais vraiment très peu. Très peu. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement pour un événement dans l'année. C'est pour ça que là, le fait de passer en National 1 l'année prochaine, ça va nous ouvrir les portes de compétitions internationales qui sont ouvertes aux amateurs.
International, ok.
Voilà.
Oui, parce que c'est vrai qu'il faut de la motivation, il faut de l'énergie. Parce que deux fois à Clermont-Ferrand, à Marseille, s'entraîner une fois par mois à chaque fois, vous vous retrouvez... Oui. Mais il y a d'autres endroits où on peut s'entraîner en France, en dehors des souffleries? Comment?
Il y a des souffleries en France.
Mais elles sont rares. Tu vas nous dire tout ça, Florine, comment on s'entraîne en France en soufflerie. et sujet délicat. À tout à l'heure, chers auditeurs, on est avec les guerrières de Cahors, championnes de France de vol relatif à 4. À tout à l'heure, merci.
CFM Radio, 40 ans de liberté. 40 ans d'expression. I'm not afraid.
CFM Sport 46, on est avec les guerrières cadurciennes, championnes de France de vol relatif. Et Florine, allez nous expliquer pourquoi il est difficile en France de s'entraîner en soufflerie.
Alors, c'est pas forcément difficile, mais pour des équipes amateurs, beaucoup font le choix d'aller à l'étranger, tout simplement pour des raisons financières. Parce qu'il y a des souffleries en France, mais les tarifs d'entraînement restent relativement importants les week-ends.
Donc, des chiffres. Combien c'est un entraînement à une soufflerie ? En moyenne, hein ?
Eh bien, écoutez, après, ça dépend du volume qu'on fait. Nous, c'est vrai qu'on s'entraîne entre 1h30 à 2h de vol par week-end. Et en fonction des souffleries, on va donner une fourchette large. Mais en France, les tarifs sont à peu près entre 600 et 800 euros l'heure coachée. Donc,
l'heure coachée, ok.
Voilà, sachant que nous, on ne prend pas de coaching. Donc, on s'entraîne entre nous, sans coach. La première année, et là, ça a changé pour l'année qui arrive.
Ça fait des bons week-ends à 1000 euros les 2 heures, c'est ça à peu près ?
Exactement.
Oui. Donc,
c'est pour ça qu'en Espagne, on a réussi à négocier des tarifs.
Tarif,
exactement. Hein. Parce que c'est des souffleries. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a pas mal de souffleries qui sont des groupes. Hein, les groupes eFly, par exemple. Je sais pas comment expliquer ça, mais leur but est de faire comme un petit peu des tandems dans le parachutisme.
Des baptêmes.
Baptêmes, de faire découvrir le sport. Alors, c'est là où. Ils font pas découvrir le sport, mais plutôt l'activité.
C'est des complexes sportifs, quoi.
C'est un groupement. C'est plutôt comme ça. Donc voilà, ils vont faire. Ils se rémunèrent comme ça. Hein, c'est ce qui leur apporte le plus d'argent, c'est de faire des baptêmes, comme certains clubs de parachutisme qui vont axer leur pratique sur la pratique du saut en tandem, et où ils délaissent un petit peu le côté sportif et favoriser en fait la pratique sportive des équipes, donc qui est beaucoup moins rentable pour eux.
D'accord, voilà. D'accord. Là, c'était à Argenteuil que vous avez gagné la médaille de champion de France à l'aérokart, c'est ça ?
Oui.
C'est un complexe où il y a du kart, il y a de la soufflerie et d'autres choses.
Oui.
C'est ce style-là qu'il y a en Espagne, c'est des petits complexes comme ça. Pourquoi il n'y en a pas en France aussi ?
Effectivement, aérokart, c'est une des souffleries en France quand même où ils sont le plus axés sur... Sur la pratique sportive. C'est d'ailleurs pour ça les seuls à avoir répondu à l'appel d'offres pour organiser le championnat de France.
Ça veut dire que chaque année, ça sera là-bas ?
L'an dernier, c'était Bordeaux, mais effectivement, c'est très souvent eux. Oui. Parce que les championnats de France, pour que les équipes y participent, comme c'est des équipes de toute la France, ça tombe sur les week-ends. Et c'est vrai que les week-ends, les souffleries préfèrent faire des baptêmes. Voilà.
Ah ouais, j'imagine, au tarif que tu dis. Et alors, pour comprendre, pour que nos auditeurs comprennent, une soufflerie, c'est quoi ?
Une soufflerie, c'est, faut imaginer, c'est comme un tube. C'est comme un tube avec, on est entouré d'une glace et c'est un ventilo qui va nous propulser, donc avec du vent. On peut choisir la puissance du vent selon la discipline qu'on va faire à l'intérieur. Et donc ça nous permet de voler en fait, tout simplement, de voler sans être collé au sol et de pouvoir nous entraîner comme si on tombait, comme si on était en chute libre dans l'air. Sauf que là du coup on vole plus qu'on tombe, c'est ça qui est un petit peu différent. Mais donc, on adapte le vent selon nos gabarits, selon...
C'est haut, le tube, comment c'est fait ? C'est assez grand ? Faut te dire déjà à 4.
Oui, alors, la hauteur pour notre discipline, ça n'a pas une grande importance. Comme on vole tout le temps au même niveau, notre amplitude de vol en termes de hauteur, elle peut varier de 2 mètres à peu près. Parce qu'en fonction des figures, on passe les unes au-dessus des autres, mais il n'y a pas une... Il n'y a pas une grosse importance pour la hauteur. Et après, le diamètre, elles font 17 pieds, il me semble, de diamètre. Et oui, c'est en pieds. Donc, je vous laisserai faire le calcul. Hein.
Ça fait combien, ça, en pieds ? D'accord. Oui, parce qu'il faut quand même tenir à 4, mais il y a aussi la discipline qui peut se faire à plus que 4.
Oui, il y a du vol relatif à 8 en compétition, effectivement. Et là, pour le coup, il n'y a qu'une seule soufflerie en France suffisamment grosse pour accueillir du VR 8. C'est celle qui se trouve à Lille, à Wemby.
Ah, d'accord. Ah, ça vous fait voyager, là, hein ?
Ça fait un petit peu long à Lille.
À Lille, ok. Et alors, pour nous expliquer, on comprend la soufflerie, il y a des figures. Comment vous travaillez ces figures ? J'imagine qu'elles sont travaillées en amont. Sur un tapis de gym, nous, comment on s'entraîne ?
Alors oui, il va y avoir effectivement une grande partie de briefing au début, avant chaque saut, avant que chaque session en soufflerie. En fait, on va avoir des espèces de planchettes où on va, avec des roulettes dessous, où on va nous briefer et vraiment simuler tout ce qu'on va faire en l'air. Okay. Et du coup, on va répéter toutes ces figures et nos enchaînements, etc. Là-dessus.
Et donc, après, vous les reproduisez dans la soufflerie.
Exactement.
Ok, donc c'est au centimètre près. Comment, c'est quoi une notation si je suis juge ou arbitre, c'est quoi les critères de notation ?
Ça va être le moment où tout le monde a formé la figure, où tout le monde a le bon grip, on appelle ça la bonne main dessus. Ça va être, on va marquer le point à ce moment-là. Du coup, il faut être très simultané avec les personnes autour, avec les coéquipiers, pour avoir exactement le même moment, le bon grip, on appelle ça, du coup, dessus.
Ok, d'accord. Ça veut dire que, Florine, tu leur envoies un plan pour s'entraîner, parce que c'est qu'une fois par mois, c'est ça,
oui.
Hein, toujours. Donc, il y a quand même des plans, des figures individuellement que vous pouvez vous approprier pour ensuite...
Oui.
Explique-nous
En fait, je vais essayer d'être assez claire, mais ça le sera pas forcément.
on va tenter.
En fait, il y a un référentiel de figures. C'est international, donc ça comporte des figures et des blocs. Donc les figures comportent sont appelées par des lettres et les blocs par des chiffres. Donc il y a 16 figures, donc 16 lettres et 22 blocs. Et en fait, chacune de ces figures et de ces blocs correspondent à quelque chose de très spécifique où on a chacune notre place à l'intérieur de chaque figure ou chaque bloc. Et en fait, quand on va s'entraîner, bah en fait, on fait des enchaînements aléatoires où on va travailler toutes ces figures et tous ces blocs.
Figure imposée ?
Oui, bah du coup, en fait, quand il y a une compétition, toutes ces figures et ces blocs sont mélangés là dans un petit saladier. En fait, ils vont tirer des enchaînements au sort. Donc en fait, voilà, quoi qu'il arrive, on fera toujours les mêmes figures et les mêmes blocs, mais pas dans le même ordre. Et il y a des enchaînements qui sont plus faciles que d'autres à faire. Et la différence entre les figures et les blocs, la figure, c'est une seule figure, c'est assez facile à comprendre. Et les blocs, en fait, on part d'une formation, il y a un mouvement entre nous et on arrive à quelque chose d'autre. Donc en fait...
C'est une transformation, comme un gros
exactement.
Transformers, là, les jouets, qui se...
C'est okay. Un petit peu ça, oui.
On pourrait dire ça.
Donc, vous tournez, en fait, vous et vous vous reconstituez.
C'est ça.
C'est ça, dans les airs.
Exactement. Donc en fait, on travaille tous ces déplacements pour être le plus rapide possible, parce que du coup, la notation se fait comme ça. Il y a 10 enchaînements sur une compétition. Et à chaque fois, donc il y a un enchaînement, par exemple, de 2 figures et un bloc, admettons. Et on doit faire cet enchaînement le plus rapidement possible. Et chaque fois qu'on valide une figure ou un bloc, ça compte un point. Et
d'accord.
Le but, c'est d'avoir un maximum de points.
Ok, c'est assez spectaculaire. Hein. Moi, j'invite les auditeurs à aller voir sur YouTube. Il y a des petites vidéos comme ça où on peut vous voir. Et
oui.
On peut voir aussi...
Alors, on n'a pas de chaîne YouTube.
Ouais, nous, c'est plutôt sur Instagram.
C'est sur Insta, vous. Alors,
oui.
Qu'on vous suit.
Oui.
Mais si je tape sur Internet les guerrières, je peux tomber sur des vidéos comme ça. C'est pour que les auditeurs puissent voir
un petit
peu.
Oui, je pense que c'est possible.
Oui.
Ça vous renverra... Je pense qu'on peut nous trouver.
Et sur Insta, c'est quoi votre Insta ?
Alors, c'est tout en minuscule, donc GuerriR, et donc un petit jeu de mots, donc c'est G-U-E-2-R-I et A-I-R, tout attaché.
Ok. Guerri, ça vient d'où ?
Alors... Guerri, ouais. C'est parce que... Donc, à la base, quand on a fait l'équipe, on s'est rendu compte qu'on était toutes plus ou moins dans le milieu médical. Parce que Florine est infirmière, moi, je suis étudiante infirmière,
ouais.
Mathilde... Et était médecin.
Elle est toujours. Elle est toujours médecin. Elle est médecin.
Et Anouk.
Moi, je suis en formation et normalement intégrer une école d'infirmière l'année prochaine.
Voilà.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Donc, c'était un peu la coïncidence. Et quand on a cherché un nom d'équipe, ça s'est fait un peu comme ça. Ouais. Qu'on a trouvé ce jeu de mots, du coup, de guerrière, avec guéri, donc pour guérir, et air, parce que l'air dans lequel on est, ouais. On évolue.
Et qui fait guerrière.
Exactement.
Il faut avoir l'esprit guerrier pour aller affronter les adversaires. Voilà. On va en reparler tout à l'heure à la suite de notre pause, avec une petite pause musicale magnifique. Je vous dis à tout à l'heure avec les champions de France de vol relatif à 4 en soufflerie. À tout à l'heure, merci.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras tout. Ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a. Vers les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Mais le dire quand même. Dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Toi, c'est la vie qui t'a envoyé vers moi. À côté des choses essentielles, par défi pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aime.
CFM Sport 46, on est avec les guerrières, cadurciennes championnes de France de vol relatif à 4. Alors mesdames, déjà on a, si les auditeurs nous ont écoutés avant, on a vérifié, Gilles a vérifié 17 pieds, donc c'est sur des souffleries de 15 mètres, c'est ça, de diamètre? Ça fait combien?
Alors, pas 15 mètres.
Pas 15 mètres? Combien?
6.
6 mètres, ok.
Environ.
Et ça, ça, c'est celle où vous avez participé lorsque vous avez eu le titre?
Non, du tout. Celle où on a eu le titre, elle était plus petite. Celle-ci de 6 mètres, c'est la plus grande qu'il y a en France et il me semble
celle
en Europe.
Lille. De ce qu'on
disait. Mais c'est ce que vous disiez à Lille.
Ouais, okay. Sinon, elles sont plus petites que ça. Ouais.
Bon, s'il y a des investisseurs cadurciens, il y a un projet à faire sur Cahors, ça c'est sûr.
On sera là, nous.
On compte sur vous et elles sont là. On parlait du mot guerrière et que vous veniez tous d'un parcours médical et guerrière. Était de guérir, c'est-à-dire que vous êtes tous passés par des formations. Et comment on est la passion de faire du vol, de sauter? Vous avez combien de vols à votre actif là? Qui c'est qu'elle a? Florine?
Bah, du coup, c'est moi qui en ai le plus. Je vais normalement ce week-end faire mon 1900e saut.
En l'air, dans les airs,
oui,
pas en
dans
soufflerie,
les airs.
Là, hein.
Oui,
on est
oui,
d'accord.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle du vol en soufflerie, mais à la base, notre équipe, c'est une équipe de parachutisme, hein, donc d'avion. Donc, on fait des compétitions en soufflerie et aussi de saut d'avion. Donc, notre titre de championne de France, on l'a eu en soufflerie.
En soufflerie, ok. Ouais. Anouk, combien de vols?
Eh bien, moi, je viens de passer la barre des 200.
Bravo, félicitations.
Merci.
Sinaï.
Et moi, du coup, aujourd'hui, j'ai fait mon 465e. Voilà.
Ah oui. Et vous avez commencé à quel âge, là?
Eh ben, moi, j'ai commencé à 16 ans, en 2021.
Ok.
Moi, 15 ans, en 2022.
Et moi, à 15 ans, en 2011. Hein.
D'accord. Ouais, moi, je comprends le niveau médical 15 ans, ouais. Pour appréhender un petit peu les chutes. Ça, ça peut aider. Mathilde aussi a commencé jeune.
Non, Mathilde, elle a commencé il y a 4 ans, un petit peu par hasard, parce qu'elle venait faire un concert justement au Paraclub de Cahors pour un gros événement qu'on a une fois par an. Parce que Mathilde...
Elle chante.
Exactement, vous avez tout compris.
On a une chanteuse chez les guerrières.
C'est ça, et c'est la raison pour laquelle elle a arrêté la pratique de la médecine aussi, pour se consacrer...
Elle se lance.
Oui, elle se lance, effectivement. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui.
On lui souhaite bonne chance. En semi-pro, en professionnel, elle
oui.
se lance.
Oui, en professionnel. Oui.
Bon, on achètera le premier album, alors.
Ah, évidemment.
On va mettre du sponsoring dessus, qui est une part un peu qui vient de guerrière.
C'est ça.
D'accord, parce que à Clermont, ou à Foix, ou à Marseille, ou même à Cahors, moi demain je veux sauter, je m'intéresse, je vous ai vu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment on vient au show en parachute? Parce que nous avec Gilles, déjà quand on monte à l'échelle à 2 mètres, 2 mètres 50, on est à l'aise, bon, on a un peu le vertige, mais comment on y vient à cette discipline? Oui, c'est vrai, pardon Gilles.
Du coup, il y a deux possibilités, soit en faisant un baptême, hein, les sauts en tandem, c'est ce qu'on entend parler le plus couramment. Donc là, bah, voilà, ça va être une expérience unique, hein. Faut dire ce qui est, il y a des gens qui font plusieurs sauts en tandem, mais il y a aussi possibilité de faire la formation pour apprendre à sauter seul. Donc c'est ce qu'on a toutes passé, c'est la progression d'accompagnement en chute, donc qui s'appelle la PAC. Donc ça se fait assez...
Rien à voir avec l'agriculture.
Tout à fait.
D'accord.
Et qui se fait en seulement 6 sauts. Donc en 6 sauts, vous pouvez être autonome et sauter d'un avion seul. Voilà. Donc,
en 6 sauts?
Oui. Oui, oui. Donc il y a 6 sauts accompagnés, bien sûr, qui est précédé d'une formation théorique, hein, de plusieurs heures. Et après, bah, voilà, le premier saut se fait avec 2 moniteurs qui sautent à côté de vous. Et après, il y a un moniteur qui va vous suivre jusqu'à votre 6e saut. Et si tout se passe bien, bah, au 7e, vous partez tout seul.
Ça fait penser au petit serpent là, dans le livre de la jungle et confiance, un peu. Là, il faut avoir confiance. Parce que vous sautez à combien là?
On saute à 4000 mètres de hauteur.
Ok.
Rien que ça.
Avec un petit avion?
Exactement,
c'est ça.
Oui, alors là, au club, on a 2 Pilatus. Le club de Cahors est propriétaire de 2 avions.
Et tu les as appelés comment?
Des Pilatus.
Ok, des petits Pilatus. C'est des avions quoi, 2 places? 4 places.
Oh, un peu plus gros quand même. On rentre à 9 voire 10. On a deux modèles différents, donc 9 ou 10 par avion.
Ouais. Ok.
Plus le pilote.
Ouais, ça mobilise effectivement un pilote à chaque fois, un instructeur ou deux instructeurs, plus les participants.
Pour faire cette formation pour la PAC, oui.
Ouais, ok. Oui, okay. Oui. J'ai fait la formation à Cahors, un centre que tu me disais, Florine, qui est quand même réputé, qui est un des meilleurs de France, n'hésitons pas à le dire.
Tout à fait. On ne va pas dire le contraire. Et oui, en termes de nombre de sauts, en 2024, si je ne me trompe pas, c'était le deuxième plus gros club de France. Ouais.
Ah ouais, génial.
Ah oui.
Si les éditeurs, nos auditeurs nous écoutent, qui vous contactent, qui viennent te voir toi, il y a quelqu'un de particulier ?
Sur
au club et on dit je veux me lancer.
Exactement, ou sur internet, le club a une page internet. Les gens téléphonent, ils réservent et c'est parti, tout simplement.
Alors, 4000, ouais, on essaie de se rendre compte de ce que c'est. Donc il y a quand même une condition physique à avoir. Vous êtes toutes sportives à la base, j'imagine,
Oui.
Là, je parle de celles qui font les compétitions.
Oui, alors pour la compétition, oui. Après, pour la pratique au quotidien, n'importe qui peut venir.
Il faut un certificat médical.
Alors, pour être licencié, oui.
Maintenant.
Mais c'est des choses qui changent un petit peu régulièrement. Là, depuis cette année, pour les gens qui veulent faire des baptêmes, ils signent une attestation sur l'honneur comme quoi ils n'ont pas de soucis de santé. Et ça suffit.
Ça vous décharge d'un accident.
Exactement.
Mais il n'y a jamais d'accident, on est bien d'accord.
C'est extrêmement rare.
C'est très très rare. Donc il y a une technique à apprendre, il y a une gestuelle à avoir dans les airs. Comment on fait ? On saute comme si on sautait à la piscine. Comment ça se passe, Florine ? Comment vous avez fait ?
Généralement, quand on saute d'un avion, tout dépend de la discipline. Mais il va falloir essayer de s'équilibrer sur l'air, ce qu'on appelle le vent relatif. Donc c'est avec la vitesse de l'avion, ça va créer un vent. Il va falloir essayer de glisser un petit peu sur ce vent pour pouvoir rester en équilibre. Parce que si on saute, justement, comme on saute à la piscine, à la piscine, on peut se faire un plat. Là, on peut partir dans tous les sens, en fait. Il faut avoir une certaine position.
Ça fait pas mal comme le plat, quand même.
C'est ça.
Ouais,
en fait, il faut juste réussir à apprécier cet élément qui est l'air. Les nageurs... Ils font avec l'eau et nous on fait avec l'air, donc c'est une sensation peu comparable à d'autres choses, quoi.
C'est l'adrénaline après qui fait qu'on a envie d'y retourner. C'est quoi ? C'est la hauteur ? C'est quoi ?
Pas tant l'adrénaline. Enfin là, je pense que je parle pour nous trois, mais l'adrénaline elle part très très vite. Après, c'est plus ce plaisir, justement, ce ressenti qui est très agréable en fait d'être en chute. D'être au contact de l'air, c'est plus...
Libre.
Ouais, exactement. C'est retrouver cette liberté, cette sensation qui nous donne envie d'y retourner, quoi. Plus que la peur et l'adrénaline que ça nous provoque, parce que la peur part très rapidement.
Ouais, moi, par exemple, j'ai un peu moins de sauts, donc il y a encore un peu cette peur. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle a changé, en fait, depuis que j'ai commencé, parce qu'il y a plus conscience des risques au fur et à mesure des sauts, etc.
C'est-à-dire qu'avant, tu sautais les yeux fermés.
Peut-être pas, mais il y avait tellement une pression énorme, une adrénaline énorme de sensations, etc. Tellement de choses aussi à gérer, de nouveautés, etc. De réflexes qui n'y sont pas au début et qui sont plus logiques maintenant. Et du coup, qui partent un peu toute cette peur. Et en fait, il y a une nouvelle peur aussi qui apparaît, des risques, parce qu'on saute quand même d'un avion.
Et n'est pas rien. Mètres, je le rappelle pour nos auditeurs.
Voilà. Et voilà. Et comme disait Florine, cette sensation de liberté quand on sort d'avion. Enfin, moi, c'est vraiment quand on ouvre la porte et d'avoir le vent et la fraîcheur qui arrive sur nous, ça fait vraiment comme si on re-respire à nouveau, quoi.
Fabuleux. À vous écouter, on a envie d'y aller. De sauter comme ça, libre. Florine, t'as pas le vertige ?
Et si. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai du mal à monter sur une échelle.
on est deux. D'accord, oui, parce que c'est le fait d'avoir les pieds sur terre, c'est ça ? Alors
exactement, que là-haut, on confond souvent le vertige avec l'appréhension du vide. Donc effectivement, moi j'ai le vertige, mais on parle de vertige quand on a les pieds au sol. Après, une fois qu'on est dans l'avion, bah effectivement, beaucoup de gens peuvent avoir de l'appréhension, mais ce sera pas du vertige. C'est l'appréhension, bah voilà, du vide qui est en dessous de nous. Même si j'aime pas trop ce terme de vide, parce qu'en réalité, on a de l'appui sur l'air, parce qu'on chute quand même à plus de 200 km/h, donc il n'y a pas cette sensation de haut-le-cœur comme dans les manèges à sensation. On a vraiment de l'appui, en fait.
Oui, il y a de la résistance,
ouais, tu veux exactement.
Dire
oui, exactement. Oui, oui. Bah, en fait, il faut s'imaginer.
Voilà, imaginez-vous, cher auditeur, 200 km/h, 4000 mètres.
Voilà, pour ceux qui sont dans leur voiture, vous pouvez ouvrir la fenêtre et mettre le bras par la fenêtre, il y a de l'appui, et là, vous êtes, en fonction de là où vous êtes sur l'autoroute ou pas, mais à 130 km/h, bah voilà, nous on chute à 200, donc cette résistance est quand même très importante.
C'est énorme, c'est énorme. Allez, on en reparle tout à l'heure, on fait une petite pause musicale. On est avec les guerrières, championnes de France de vol relatif. À tout à l'heure, merci.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
At hand, creatures crawl in search of blood, to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
CFM Sport 46, on est avec les guerrières, championnes de France de vol relatif à 4 en soufflerie, mais on était en train de discuter comment ça se passait à 4000 mètres d'altitude, avec quoi ? Avec une vitesse de 200 km/h en chute, on est équipé comment là ? Comment ça se passe ?
Ben alors, déjà on est en parachute.
C'est bien, c'est un bon point. Déjà, ça nous rassure, ça rassure les auditeurs qui voulaient se tenter à Cahors, un magnifique club de Cahors, hein, on le répète.
Oui, donc on a un parachute, ensuite on va avoir un altimètre, donc c'est pour qu'on va être placé sur le poignet gauche, qui va nous permettre de savoir à quelle altitude on est, donc pour lire, par exemple à la hauteur d'ouverture.
Ok, qui est de combien pour vous ? Ça dépend.
Qui est entre 1200 et 1000 mètres.
Ok. Et à... se louper, faut pas oublier.
Et non, exactement.
Ok.
Et après, bah, on a un casque. Un casque en plus.
Ouais, comme un casque de moto finalement.
Ah, ok.
Donc voilà. Après, il y en a plusieurs de sortes, mais les nôtres sont comme ça. Donc ça, on appelle ça des casques intégraux.
Intégrales. Avec des visières, comme ça, ouais. Ça évite d'avoir trop d'air sur le visage. Enfin, c'est très confortable, quoi.
Oui.
Oui, pour les yeux aussi, non ? Pour la vue.
Oui, évidemment.
Alors, vous sautez, votre particularité, c'est de sauter pour s'entraîner, pour performer, pour une compétition notamment, mais pas que. C'est aussi pour quotidiennement s'entraîner et maintenir son niveau sportif, on va dire. Quand vous êtes en l'air, comment vous communiquez ? On ne peut pas parler ?
Eh ben non. Et Et du coup, c'est ce qu'on apprécie d'ailleurs beaucoup, nous, dans notre équipe, c'est qu'on a vraiment une vraie connexion, tous ensemble. On arrive à communiquer, si bizarre puisse paraître, par les yeux. C'est-à-dire que parfois, on arrive à voir le regard de la coach, donc de Florine, et on arrive à croiser son regard, et on sait tout de suite si on a bien fait notre mouvement ou pas, et on arrive très vite à corriger.
Par exemple, il y a des fois, on appelle ça des brain lock, donc ça veut dire que par exemple, on a un enchaînement type, et on va oublier la figure d'après, et ça arrive à tout le monde, etc. Et donc, par exemple, s'il y en a une qui est un peu perdue dans son truc, on le voit direct parce qu'elle est plus...
plus synchro, hein. Oui,
les voilà. Yeux sont plus concentrés.
Oui. Il n'y a plus cette lucidité de groupe.
C'est ça.
Parce qu'il faut expliquer, donc on reprend, hein, 4000 mètres, 200 km/h, ça veut dire combien de secondes vous avez pour vous entraîner quand vous sautez, quand vous atterrissez ?
Alors, en entraînement, c'est un petit peu plus qu'en compétition, parce qu'en compétition, en réalité, on saute pas à 4000 mètres, mais à 3200 mètres, parce qu'on est noté que sur 35 secondes de chute. Mais après, quand on s'entraîne, on saute à 4000 mètres, et là, ça équivaut à peu près à 50 secondes de chute libre.
Ok, moins d'une minute pour s'entraîner.
Oui, et aussi, il faut prendre en compte que, bah, bien sûr, on fait nos enchaînements, etc. Mais l'heure de l'ouverture, en fait, on appelle ça, on va faire une dérive, une séparation à une altitude donnée pour ouvrir le plus loin les unes
pour
des autres.
Ça se croise,
en fait. Exactement.
Ouais, exactement.
Et en fait, le but de ce déplacement, c'est vraiment d'ouvrir le plus loin possible les unes des autres pour ne pas se percuter justement sous voile.
Donc, du coup, on ouvre à 1000 mètres, mais on se sépare à 1500 mètres.
Ah ouais, ça laisse pas beaucoup de place quand même pour l'entraînement. Il faut quand même avoir préparé son sujet, quoi.
Oui, c'est
pour ça. Si on arrive un peu fatigué d'Espagne sur une soirée un petit peu...
on ne dira rien.
De convivialité. Voilà, il faut pas s'oublier parce que combien de fois vous sautez du coup dans la journée pour vous entraîner, on le répète, à moins d'une seconde.
Bah,
moins d'une minute, pardon.
Quand on s'entraîne d'avion, on essaye de faire un peu minimum 6 sauts par jour. C'est pour ça qu'on privilégie en fait les entraînements en soufflerie parce que voilà, 6 sauts par jour, donc 12 sauts, admettons, sur le week-end, ça va faire très peu de travail. Contrairement en soufflerie, on peut voler 2 heures dans le week-end.
Ah ouais, beaucoup donc, plus confort. Exactement. Parce que là, vous atterrissez pour replier le parachute, j'imagine que c'est technique.
C'est très physique aussi.
C'est lourd.
C'est ça, c'est...
Physiquement, c'est un travail, il n'y a pas que le... Il n'y a pas que le, la chute libre, finalement, pas que nos entraînements.
D'accord.
Sur le parachute, sur le, pour plier pardon, le parachute, il va avoir des étapes. Souvent, il fait très chaud, on essaye d'enlever nos combis, etc. Mais il y a des étapes pour plier, pour ne pas abîmer la voile, tout ça. Et pour que ça s'ouvre, finalement, le mieux possible. Pour pas qu'on finisse avec un limbingo à 20 ans. Donc...
J'imagine qu'il ne faut pas se faire.
C'est ça.
En fait, c'est tout des choses qui se font très bien, hein, mais voilà, qui, dans notre programmation d'entraînement, qui va nous faire perdre du temps, en fait. Donc, c'est vrai que la soufflerie.
Il y a pas mal d'énergie aussi.
Vous ne pouvez pas avoir 5-6 parachutes déjà prêts pour enchaîner, etc. Et... Vous n'avez pas les moyens.
Oh, c'est exactement, quand même pas mal. On n'a pas les moyens.
On appelle le sponsor encore. Voilà. Le sponsoring, là. Il faut aider.
Voilà, après les équipes, l'équipe de France par exemple, dans leur équipe, il y a un plieur. Donc,
donc là, c'est quelqu'un qui est vraiment spécifié.
Donc
en
eux,
fait,
quand ils s'entraînent, ils font.
Lui, il ne faut pas qu'il se loupe, hein, je te le dis. Si vraiment il est fatigué le matin, qu'il s'est loupé.
Pour le coup, eux font 12 sauts par jour, par exemple, quand ils s'entraînent. Donc,
Mais sauf qu'ils ne plient pas, donc ça rajoute, ça compense quoi.
Ouais, parce que vous atterrissez et de suite, l'avion a déjà atterri lui. Donc vous remontez de l'avion et vous enchaînez comme ça ou il faut il y a des pauses, il y a un temps.
Du coup nous on fait à peu près un saut toutes tous les 3-4 avions, donc un saut tous les une heure et demie.
Ah ok. Ah donc, ouais d'accord.
Après parce qu'on prend le temps de débriefer entre chaque chaque saut.
Enfin un saut en fait il faut compter, il y a déjà 20 minutes à peu près de montée l'avion, donc après on parle du temps de chute etc. On a environ un peu moins de 5 minutes sous voile, ça va dépendre. Ça va dépendre. Florine, par exemple, va descendre plus vite et Sinaï aussi. Alors que moi, par exemple, quand j'ai moins de sauts, je vais descendre moins vite. Et après, le temps d'aller plier, de se déshabiller et tout. Et après, de se rééquiper. Et on n'oublie pas aussi le briefing des briefings. Donc,
Ah oui, la coach. Et le regard noir. Et le regard noir. Oui, là, c'est pas un entraînement de tennis. Je vais m'entraîner 2 heures. Et puis voilà, là, c'est vraiment tout le week-end. Quoi. Ça vous prend du temps, quoi.
Exactement.
L'organisation, hein.
Et c'est ce qui fait que, en seulement un an, on a quand même créé et tissé des liens super forts parce qu'on, quand on s'entraîne, on vit au quotidien ensemble, quoi. Donc,
ouais, puis la confiance, l'investissement, champion de France. Ouais. Ok.
C'est pas mal.
Et alors, vous, c'est en soufflerie, ça veut dire qu'il y a un championnat de France ou championnat d'Europe ou du monde, que sais-je, en altitude? Ça, c'est ce que tu disais, c'est le cas, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, donc il y a, que ce soit d'avion ou en soufflerie, il y a un championnat de France, et après il y a des championnats d'Europe, championnats et coupes d'Europe, et championnats du monde.
Ça veut dire que vous envisagez le saut d'avion?
Nous, en fait, on est vice-championne de France de saut d'avion aussi, déjà.
Vice-championne de France de saut d'avion.
Et après, c'est vrai que toutes les compétitions européennes, tout ce qui est Coupe d'Europe, Championnat du Monde, etc., ça vont être envoyés sur ces compétitions-là, l'équipe nationale. Nous, on reste une équipe amateur. Donc,
d'accord.
Et pour le moment, on est en National 2 et les compétitions internationales, c'est de la National 1.
Il y a combien de compétiteurs là à chaque fois? Vous êtes non.
Ça varie.
C'est assez aléatoire en fonction des années parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, ça demande pas mal d'investissement en termes de temps et financier. Trouver des coéquipiers qui soient disponibles pour s'entraîner. Donc ça dépend des années. 2024 a été une bonne année. Il y a eu 14 équipes en National 2. Pour le championnat de France d'avion et de soufflerie.
Ouais,
c'est ça. Mais par exemple, en National 1, où le niveau est plus important, donc ça demande un entraînement plus soutenu, on peine à avoir suffisamment d'équipes pour que le championnat de France ait lieu.
Ah oui, d'accord.
Donc,
c'est discipline exigeante.
Voilà,
question biais, il y a un championnat mixte?
En fait, comme il y a peu d'équipes, c'est vrai que...
Il y a
c'est...
les mecs d'un côté et les filles de l'autre.
Non, tout le monde est ensemble.
Ah, ok.
Ouais. Donc, il y a des équipes mixtes, des équipes entièrement féminines, entièrement masculines, et tout le monde...
Argenteuil, lors du titre, il y avait des équipes mixtes.
Oui, exactement. Oui.
Ah, okay.
En fait, il n'y a qu'une seule catégorie. En fait, il n'y a pas suffisamment d'équipes pour qu'on puisse se permettre de...
Surtout côté féminin, en fait.
Sous-catégories.
D'accord.
Après, à l'international, à l'international, il y a des classements uniquement féminins.
D'accord.
Il y a mixte et féminin. Il n'y a pas que masculin, mais voilà.
Les projets pour 2025-2026 pour les guerrières, c'est quoi ?
C'est pas mal, bien sûr, de la compétition, mais par exemple, là, on va faire notre première animation donc de vol relatif de notre discipline le mois prochain au Puy-en-Velay, donc à côté de Clermont-Ferrand.
Okay.
Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur aussi de partager aussi tout ça. Donc bien sûr, il y aura des gens qui viendront tout seuls, qui auront déjà un certain brevet pour pouvoir pratiquer cette discipline, et peut-être d'autres, des équipes déjà formées, en fait, qu'on va proposer du coaching. En okay. équipe, etc. Donc ça, voilà, c'est un des projets.
Oui.
Ah, c'est sympa, ça.
Oui. Okay.
Voilà, et puis après, pour ce qui est de la compétition, on va, comme on passe en National 1 cette année, on va s'axer essentiellement sur le vol en soufflerie. Et du coup, on espère, à la fin de l'année 2025, participer à des compétitions, comme on vous disait, internationales, ouvertes aux amateurs, donc une compétition en France, à Lille. Et puis enchaîner avec une compétition au Luxembourg et en Espagne, là où on s'entraîne.
Super projet, d'accord.
Voilà,
okay. Un peu à la maison.
C'est une des plus grosses compétitions amateurs qui se fait en soufflerie dans le monde. Donc, Donc voilà, comme en plus c'est là où on s'entraîne, on a vraiment à cœur d'y participer cette année. On n'a pas pu l'année dernière pour des raisons de planning, hein, mais voilà, du coup, c'est notre gros projet de l'année.
Vous recrutez ? Il y a d'autres équipes qui peuvent se former à Cahors ? Il y a d'autres personnes qui peuvent vous rejoindre ? Ou l'équipe est plutôt soudée, ça on l'a compris, mais c'est difficile de d'intégrer de nouveaux partenaires. Parce que, comme on l'a dit tout au long de l'émission, il y a quand même un travail à la fois de confiance, mais aussi de individuel et collectif sur des figures depuis maintenant un an. C'est difficile d'intégrer d'autres personnes. Comment...
C'est vrai que ça fait perdre un petit peu du temps dans la progression, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses où on n'a plus besoin de se parler. En fait, c'est vraiment des habitudes, des automatismes. Après, comme là, personne ne compte arrêter l'équipe, on ne recrute pas spécialement.
Ouais.
Mais après, je dirais qu'on recrute dans notre discipline pour que d'autres équipes se constituent et participent en fait à cette aventure
humainement aussi hyper riche.
Ouais. J'imagine. Et on n'a pas parlé de la cinquième personne.
Et oui, notre vidéowoman. Parce que voilà, en soufflerie, on est effectivement que quatre, mais d'avion, en fait, il faut une cinquième personne qui nous filme pour ramener les vidéos au juge. Donc elle fait vraiment partie intégrante de l'équipe.
Ok, comment elle s'appelle ?
Léa.
Et bonjour Léa. Garde les vidéos, on ne sait jamais s'il y a eu 2-3 anecdotes un petit peu aux difficultés. Si la coach a eu le regard noir, on ne sait jamais. Écoutez mesdames, ça a été un plaisir de vous rencontrer et d'apprendre, connaître votre discipline. Merci d'avoir été avec nous à CFN Sport 46 et nous avoir expliqué et raconté un petit peu tout ça. Notamment ce titre de champion de France en soufflerie, vice-champion de France en altitude. On vous souhaite que du bon sur les projets 2025-2026. Attaquez-moi l'international et les espagnols.
On pensera à vous.
Le bonjour à Mathilde, la coéquipière qui n'était pas là. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Lundi, rediffusion. Dimanche, à bientôt. Merci, on était avec les guerrières. CFM Sport 46.
CFM Radio. 40 ans de liberté. 40 ans d'expression.